la Russie et cette élection présidentielle qui doit se tenir jusqu'à dimanche. Vladimir Poutine se présente pour un cinquième mandat, c'est son troisième d'affilée, ce serait son troisième d'affilée. C'est encore vraiment une élection, ce qui va se passer en Russie, Nicolas ?
Bah non, ça tient plus de la mascarade. Alors officiellement, oui, premier tour de l'élection présidentielle russe, ce vendredi 15 jusqu'à dimanche 17, un très hypothétique second tour le 7 avril, même s'il y a peu de risque pour Vladimir Poutine de ne pas être élu dès dimanche, il sera alors président pour un nouveau mandat de 6 ans jusqu'en 2030. Les modifications de la Constitution lui autorisent même déjà un dernier mandat jusqu'en 2036.
Il y a vraiment d'autres candidats lors de ce scrutin parce que, à part Vladimir Poutine, on ne les connaît pas.
Non, la véritable opposition politique, celle qui était incarnée par Alexei Navalny, n'est pas autorisée à concourir. L'unique candidat anti-guerre, Boris Nadejdine, n'a finalement pas pu valider sa candidature, crainte sans doute qu'il ne fédère trop de mécontents. Alors on a plutôt envie de vous dresser la liste de tous ceux qui ne se présenteront pas, les absents, les interdits, les abandons plus ou moins forcés, ou tout simplement ceux qui n'ont pas réussi à rester en vie jusqu'à l'élection. Mais oui, pour répondre à votre question, des candidats, il y en a. Quatre, Poutine y compris. Nikolaï Karitonov, communiste, déjà candidat il y a 20 ans. Leonid Sloutsky, estampillé libéral, en réalité nationaliste. Et Vladislav Davankov, homme d'affaires qui ose parfois se montrer ambigu sur la poursuite de la guerre en Ukraine, même s'il a soutenu l'opération spéciale. Mais une fois qu'on a dit ces noms, on peut tout aussitôt les oublier, puisque suivant la formule du Guardian, les résultats de ce vote laisseront très peu de place à l'imagination. Est-ce encore une élection ? Il y aura des candidats, des urnes, des bulletins de vote, des présidents de bureau, des assesseurs, mais pour le reste, ça ne sera pas non une élection. Pour être le plus poli possible, c'est à peine un simulacre avec un vainqueur, Vladimir Poutine, le même d'ailleurs, depuis l'an 2000.
Oui, depuis l'an 2000, avec une courte pause en 2008, c'était Dmitri Medvedev qui avait occupé la présidence pendant 4 ans. Et Poutine était alors Premier ministre. Voilà. Pourquoi se fatiguer, Nicolas, à organiser cette élection si elle ne sert qu'à entériner le sacre de Poutine ?
C'est l'aspect paradoxal des régimes autocratiques qui veulent garder les apparences de la légitimité. Le dictateur n'aime pas reconnaître qu'il en est un. Et des élections, même totalement faussées, ça maintient un peu de respectabilité. C'est un vernis qui, en temps de guerre, peut persuader celui qu'il souhaite que la vie continue comme si de rien n'était. Les élections, c'est aussi en interne une jauge pour mesurer l'adhésion populaire. Et là, c'est plus le taux de participation qui importe. Poutine, qui n'est pas tout seul en Russie, doit démontrer aux élites autour de lui qu'il bénéficie d'une solide base, sans quoi on pourrait vouloir lui chercher un successeur. Le mouvement inverse est tout aussi vrai. Si l'élection sert à conforter le pouvoir se sert de l'élection pour vérifier que la machine continue à lui prêter allégeance. Les caméras de surveillance dans les bureaux de vote, elles ne filment pas que les votants, elles enregistrent aussi le comportement des membres du bureau de vote. Et puis, les résultats portent tout de même toujours quelques messages. Si le candidat le plus ouvertement ambigu sur la guerre est ridiculisé dans les urnes, le message à tous ceux qui s'opposent à la poursuite de l'invasion de l'Ukraine, ce sera « Regardez à quel point vous êtes peu nombreux, à peine quelques pourcents dans l'urne.
Ouais. » Mais quoi, ça veut dire que même dans le secret de l'isoloir, les Russes n'oseraient pas s'opposer à Poutine ?
Vous avez raison, c'est l'autre indicateur. Que feront les Russes ? La veuve de Navalny, Yulia, a appelé à voter pour n'importe quel candidat autre que Vladimir Poutine ou à invalider le bulletin en écrivant dessus Navalny. Et comme votant, vous devez tout de même être certain que personne ne va regarder votre bulletin avant qu'il ne soit dans l'urne. Et puis si votre vote est électronique, c'est tout simplement impossible. L'autre geste qui est proposé, c'est de se rendre au bureau de vote le 17 à midi en guise de pied de nez. Ça dit à quel point dans cette société, un geste anodin, l'heure où on va voter peut devenir un signe de ralliement, un geste de contestation. L'heure du vote comme protestation, ça dit le poids de la chape qui pèse sur cette opposition.
Et puis il y a ces Kremlin leaks, ces fuites révélées fin du mois dernier qui nous apprennent les montants investis par le Kremlin pour cette élection.
Oui, alors là on explose tous les budgets de campagne. Les documents qui ont fuité via un média estonien évoquent plus d'1 milliard d'euros injectés dans la guerre de l'information, l'élection présidentielle et les zones occupées en Ukraine, plus de 600 millions pour le divertissement, la télévision, le cinéma, le contenu en ligne, le tout pour souligner les valeurs traditionnelles, l'exaltation des héros, l'unité de la Russie. Ça peut sembler un peu naïf, c'est en réalité très cynique. Toute l'année passée, l'argent a alimenté des films ou des séries russes. Exemple, RDA, l'histoire d'un ancien agent des services secrets soviétiques en Allemagne de l'Est, chargé de la difficile tâche de lutter contre l'influence occidentale. Ne cherchez pas trop loin, en 1989, Poutine était à Dresde, agent des services secrets soviétiques chargé de la difficile tâche de lutter contre l'influence occidentale. Donc la propagande d'avant les élections, c'est autant de bulletins en moins à manipuler le jour du simulacre.
Si je vous comprends bien, il y aura autant de suspense lors des élections présidentielles en Russie que lors des Oscars la nuit dernière. Merci.